Europe Matin Weekend, Julien Pierce.
Votre premier journal de cette matinée, c'est avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1.
C'était terrible. Les maisons ont littéralement glissé. Quatre maisons ont complètement disparu. Mais on a peur que d'autres s'écroulent encore. C'est un drame.
L'Allemagne compte ses morts après de terribles inondations. Reportage près de Cologne où un village a quasiment disparu de la carte.
La situation est-elle tenable pour Éric Dupond-Moretti ? Le garde des Sceaux est mis en examen.
Qui sont les anti-vaccins qui iront manifester aujourd'hui ? Nous verrons que les profils sont plutôt variés.
Et puis, à qui la Palme d'Or ? Le jury du Festival de Cannes délibère ce matin. Les Français ont leur chance.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'Europe sous le choc, donc, après les inondations, on compte désormais 130 morts en Allemagne.
Sans compter les personnes toujours portées, disparues. Catastrophe supplémentaire hier matin. Un énorme glissement de terrain s'est produit à une vingtaine de kilomètres de Cologne. Mélina Fachin, vous êtes sur place pour Europe 1. C'est toute une partie du village qui a été rayée de la carte.
Oui, là où se trouvaient des maisons, des trottoirs, désormais il n'y a plus qu'un cratère énorme. Tout a été englouti dans l'eau boueuse, plusieurs maisons, des voitures entassées les unes sur les autres, un centre équestre qui a été complètement éventré. Au milieu du manège, il n'y a plus qu'un trou qui donne sur le vide, comme si une bombe avait explosé. Martine vit à quelques mètres de là.
Ce que j'ai vécu ces dernières 48 heures, c'était comme la guerre. C'était terrible. Les maisons ont littéralement glissé. Les chevaux ont été sauvés au dernier moment. Quatre maisons ont complètement disparu. Mais on a peur que d'autres s'écroulent encore. C'est un drame.
La maison d'en face tient encore debout, mais on peut voir sur le mur le niveau auquel est montée l'eau. Marc, le propriétaire, le visage couvert de boue séchée, l'air hébété, à peine à croire qu'il est toujours vivant.
Oui, bien sûr, j'ai eu très peur. L'eau est arrivée jusque-là, un bon mètre, 1,50 m. Dans le jardin, c'est une vraie catastrophe, tout est détruit. Il y a même un cratère au bout.
Marc et Martine ont décidé de rester ici, mais la plupart de leurs voisins sont allés se réfugier ailleurs. La police, qui craint des pillages de maisons, multiplie les patrouilles dans ce village fantôme.
Les précisions de Mélina Fachin, envoyée spéciale d'Europe 1 en Allemagne. La Belgique paye aussi un lourd tribut avec à cette heure au moins 20 décès.
Revenons en France avec cette question ce matin. Éric Dupond-Moretti peut-il rester ministre de la Justice ?
Le garde des Sceaux a été mis en examen hier pour prise illégale d'intérêt. C'est une première sous la 5e République pour un ministre de la Justice en exercice. Et Christophe Ingrin, l'un de ses trois avocats, estime que tout était joué d'avance.
Sans surprise, il a été mis en examen. Il ne lui a pas été expliqué les raisons pour lesquelles la commission d'instruction a considéré que les indices graves et concordants étaient réunis et justifiaient sa mise en examen. Ce mépris pour ses droits s'inscrit dans la suite des anomalies que nous avons constatées et dénoncées depuis le début de la procédure. L'accusation est portée par le même procureur général qui a conseillé au ministre de prendre la décision qui lui vaut aujourd'hui sa mise en examen. La plainte qui fonde cette procédure est déposée par le syndicat de magistrats qui avait qualifié la nomination d'Éric Dupond-Moretti de déclaration de guerre. Nous allons évidemment la contester, cette mise en examen, de même que dès la semaine prochaine, nous demanderons l'audition du procureur général près la Cour de cassation pour que la vérité soit faite.
Christophe Ingrin, l'un des avocats d'Éric Dupond-Moretti au micro Europe 1 de Marion Dubreuil.
Et notez qu'à 8h15, je reçois justement à ce sujet un ancien garde des Sceaux, le socialiste Jean-Jacques Urvoas.
Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer la vigilance près des permanences des parlementaires et de leur domicile. Hier, des manifestants anti-vaccins ont envahi celle du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, dans le Finistère. Aujourd'hui, plusieurs appels à manifester ont été lancés. Alors, quel est le profil des personnes qui iront manifester aujourd'hui ? Élément de réponse avec Alexandra Sirgan.
Déjà mobilisées mercredi, Marie et Sophie seront à nouveau dans la rue cet après-midi. Ces deux cousines, toutes deux masquées, manifestent contre ce qu'elles appellent une obligation déguisée, mais elles refusent l'étiquette de complotiste.
C'est facile de dire vous êtes complotiste, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais à un moment donné, quand on réfléchit bien et qu'on se pose des questions, on se dit attends, Depuis le début, le gouvernement en fait nous a menti. Le masque ne sert à rien. Tout d'un coup, le masque, en fait, on doit le mettre, il devient obligatoire. On n'a pas besoin de se faire confiner et en finalité, on nous confine. À un moment donné, bah, à force de nous avoir mis des mensonges, bah, c'est de leur faute en fait qu'aujourd'hui on se pose des questions.
Les deux trentenaires rejettent également l'étiquette anti-vaccin. La raison de leur refus de se faire vacciner, le manque de recul.
Le vaccin aujourd'hui qu'on nous propose, il est encore en phase expérimentale. Moi, je me suis fait vacciner tout au long de ma vie, j'ai pas de problème avec ça, mais aujourd'hui, on me force à faire quelque chose que je ne veux pas.
Et pas sanitaire ou non, elle l'assure, le vaccin, elles ne le feront pas.
On va résister, et puis s'il faut pas aller, il faut sacrifier encore 2 ans, pas de vacances, 2 ans, pas de restaurant, et ben on le fera, c'est pas grave.
Gilets jaunes et soignants ont également prévu de se rendre à la manifestation. Selon la Fondation Jean Jaurès, 10% de la population française refuse de se faire vacciner contre le Covid.
Les précisions d'Alexandra Sirgan. La vaccination qui a battu un record hier avec 824 000 doses injectées. 44,2% de la population a désormais reçu ces 2 piqûres. Pas de 3e dose nécessaire à ce jour, estime la Haute Autorité Sanitaire.
Et si vous partez en vacances dans les Pyrénées-Orientales, laissez une place dans vos valises pour un stock de masques.
Oui, dès ce matin, il fait son retour en extérieur dans toutes les communes du département, mais ni à la plage, ni dans les grands espaces naturels. Voilà qui risque de transformer un petit peu vos vacances.
Des vacances qui concernent beaucoup d'entre vous ce week-end.
Et bison futé, voie rouge dans le sens des départs, orange dans celui des retours pour assurer la sécurité sur l'autoroute. Eh bien, vous allez sans doute croiser de nombreux patrouilleurs qui sont mobilisés. Écoutez ce reportage de Frédéric Michel dans le Sud-Est.
Chaque semaine, 2 fourgons des femmes et hommes en jaune sont percutés sur l'autoroute. Derrière ce chiffre, il y a Marc, Félix, Hélène.
Sur la route ce week-end, vous allez sans doute entendre ce message. Chaque année, rien que sur le réseau Escota, 50 véhicules de service sont heurtés. Bertrand Wipfscheibel, directeur communication, Vinci Autoroute.
Dès qu'il voit des hommes en jaune, le message est simple, écartez-vous, respectez la règle du corridor de sécurité. Il y a des femmes et des hommes en jaune qui ont eux aussi des familles et qui, après avoir protégé toute la journée les usagers, souhaitent rentrer chez eux.
Pour anticiper chaque situation, les patrouilleurs s'entraînent régulièrement sur une portion d'autoroute reconstituée au Canet des Morts.
Donc là, elle déploie sa signalisation que vous voyez à l'arrière, la flèche lumineuse d'urgence.
Cette fois, c'est une valise qui est tombée. Régine va devoir récupérer l'objet sur la voie de droite. Une situation trop fréquente lors des départs en vacances.
Elle ne quitte pas les automobilistes du regard pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui vienne la faucher ou la percuter.
Il faut quand même adapter sa vitesse et ralentir quand on nous voit intervenir sur l'autoroute. C'est pas compliqué du tout. Et pas de regarder le téléphone portable.
Selon le baromètre de la Fondation Vinci Autoroute, à l'approche d'un véhicule en intervention, 69% des conducteurs avouent ne pas respecter le corridor de sécurité.
Le reportage de Frédéric Michel dans le Sud-Est pour Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite du journal de Lénaïque Monnier. On s'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur réponse sur Parcoursup. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Julien Pierce.
7h09 sur Europe 1, la suite du journal de Lénaïque Monnier. Avec ce chiffre, 91 000 jeunes n'ont pas encore reçu de proposition de Parcoursup.
Oui, si cela vous angoisse, rassurez-vous, une nouvelle phase va commencer dès ce soir minuit. C'est ce qu'on appelle la phase complémentaire. Pour nous en parler, Jérôme Teillard, c'est le monsieur Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur.
Elle va fonctionner tout l'été jusqu'à la mi-septembre. Ils peuvent formuler jusqu'à 10 vœux sur des formations qui ont des places vacantes. Ce sont plus de 5000 formations, si bien des BTS, des classes préparatoires, des écoles de commerce, y compris, et puis des licences. Donc, elle est mise à jour très régulièrement. Donc, le conseil, c'est évidemment de pouvoir consulter pour regarder les formations disponibles. Et puis, il y a un accompagnement individualisé. Au début de l'été, on a pris soin d'appeler individuellement, et c'est encore en cours, chacun des lycéens pour faire le point avec lui, des spécialistes, des experts. Sont là finalement pour vous essayer de trouver la bonne formation qui va répondre à votre projet, qui va se faire aussi en fonction des places qui restent disponibles.
Monsieur Parcoursup, Jérôme Teillard au micro de Virginie Riva.
À l'étranger, dernier rappel pour les Français résidant en Afghanistan.
Le pays retombe aux mains des talibans. La France a donc sommé ses derniers ressortissants présents d'évacuer. Il n'y aura qu'un seul et unique vol et c'est ce matin, Marion Gauthier.
Oui, à bord une quarantaine de Français et une majorité d'Afghans qui ont travaillé pour la France. Au total, une centaine de passagers quand l'appareil pouvait en accueillir jusqu'à 240. Reste encore sous le ciel afghan 60 à 100 ressortissants, dont des membres de l'ambassade, les autres des ONG, des journalistes, des citoyens comme Louise qui s'investit depuis un an dans l'éducation à Kaboul, pour qui l'annonce a été trop brutale, pour qui le départ s'apparente à une désertion.
Moi, personnellement, je me suis énormément attachée à ce pays. Malgré l'avancée des talibans, c'est même plus une avancée maintenant, c'est au-delà. La vie continue en fait. Et puis forcément, même si on est là pour travailler, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe. Ça nous a déboussolé cette annonce quand même, on y a réfléchi.
La situation se dégrade et cette dégradation peut s'accélérer rapidement, glissent des diplomates. Les talibans progressent dans presque toutes les provinces. Impossible de savoir combien de temps encore des avions pourront décoller et atterrir. Quant à l'ambassade, en partie évacuée, elle ne pourra plus assurer la mise en sécurité de ses ressortissants.
Les précisions pour Europe 1 de Marion Gauthier. À ce sujet, à 7h40, on fera le point sur la situation en Afghanistan, sur cette avancée des talibans avec Gilles Doronsoro, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1.
À qui ira la Palme d'Or ? Réponse tout à l'heure, c'est la clôture du Festival de Cannes. Le jury, dirigé par Spike Lee, délibère dès ce matin. Et Mathieu Charrier, il y a des chances françaises.
La dernière Palme d'Or française, c'était en 2015 pour le film Dipane de Jacques Audiard. Le réalisateur, de nouveau en lice cette année avec les Olympiades, qui suit les tribulations amoureuses de quatre trentenaires plus à l'aise pour draguer derrière leur écran que lors du premier rendez-vous. Mixité, diversité, genre, tourné dans un magnifique noir et blanc, c'est un candidat sérieux à la récompense suprême. Pour le prix d'interprétation féminine, Léa Seydoux a toutes ses chances. Elle est présente dans trois films de la sélection. Il faut aussi ne pas oublier Titane de Julia Ducournau, interdit aux moins de 16 ans, qui démarre sur l'histoire d'une jeune femme avide de violence et attirée par le titane, puis glisse vers une divagation, là encore, sur le genre, le corps, les liens familiaux. La forme pourrait parler au jury, notamment à Mylène Farmer. Et puis il reste Tout s'est bien passé de François Ozon, dans lequel André Dussolier joue un vieillard qui réclame un suicide assisté, peut-être un prix d'interprétation, ou encore La fracture de Catherine Corsini sur une nuit dans un service des urgences en pleine crise des Gilets jaunes, ou enfin Haut et fort de Nabil Ayouch, qui filme une année de cours de hip-hop dans un centre culturel marocain. La France a présenté cette année encore une belle diversité de films ancrés dans leur époque. On saura ce soir si le jury y a été sensible. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1.
Et Mathieu Charrier qu'on retrouve dès 19h15 ce soir sur Europe 1 pour vivre en direct la cérémonie de clôture en partenariat avec Canal+.
Et c'est la première fois qu'Europe 1 diffuse cette cérémonie de clôture. C'était le journal de Lénaïque Monnier. Merci beaucoup Lénaïque. Restez